Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et nous allons écouter les lectures de la parole de Dieu. Nous continuons aujourd'hui la série sur le livre de Philémon et nous allons entendre une première lecture qui sera les quatre versets dans Philémon qui occuperont donc ce matin la prédication dans Philémon. Il n'y a qu'un chapitre, c'est les versets 8 à 12 pour aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons deux autres textes qui sont dans Colossiens, une lettre qui a été envoyée à l'église de Colosse où était Philémon. Et ce sera le texte de Colossiens 3, 11 à 17 et ensuite de 22 à 25. Et à la suite de ces lectures, nous entendrons encore la lettre de Philémon dans son entier, mais dans la traduction ou la transcription parole vivante. Donc la lettre en entier, comme si on la recevait de l'apôtre Paul aujourd'hui encore. Voilà, donc écoutons maintenant les lectures. Je laisse la place à Darius.
Philémon 1, 8 à 12. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans la chaîne, Onésime. Autrefois, il t'a été utile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Colossiens 3, chapitre 11 à 17. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circonscrit, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Sous la grâce, chantez à Dieu de tout cœur, de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colossiens 3, versets 22 à 25. Serviteurs, obéissez en tout à votre maître selon la chair, et cela non seulement sous les yeux comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. Lettre à Philémon. Paul en prison pour avoir servi Jésus-Christ et le frère Timothée, à Philémon notre cher ami et collaborateur, ainsi qu'à Appia notre sœur, Archippe notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse d'intercéder pour toi, cher frère, car ton souvenir se présente à moi chaque fois que je prie. Je remercie Dieu, car j'attends parler de ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ et pour tous les chrétiens, ainsi que ta foi, vivante et loyale. Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi, qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. Que tu puisses reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ et comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher avec lui. Oui, j'ai éprouvé une grande joie en apprenant comment tu mettais ton amour en pratique. On m'a raconté. En effet, mon frère, que tu as réconforté le cœur des autres chrétiens. Ces nouvelles sont pour moi d'un grand encouragement. En tant que serviteur du Christ et dans la communion avec lui, je pourrais bien, certes, te donner des ordres en usant de l'autorité que Christ m'a conférée. J'aurai le droit de te prescrire ce que je considère comme devoir. Mais en pensant aux liens d'affection qui nous unissent, je préfère en appeler à ton tour. Je préfère en appeler à ton amour et adresser une demande à mon nom personnel. Oui, celui qui te présente cette requête, c'est Paul, un vieillard, un de plus, maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je viens te prier en faveur de mon enfant. Oui, ici, dans cette prison, je suis devenu le père spirituel d'Onésime. Oh, je ne sais que jadis, il n'a guère fait honneur à son nom et qu'il était plutôt propre à rien. Mais aujourd'hui, il a bien changé. À l'avenir, il te sera certainement très utile, comme il est maintenant pour moi. Je te le renvoie donc, bien qu'il soit devenu comme une partie de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu m'assister en ton nom dans cette prison et me rendre les services que tu aimerais me rendre toi-même pendant que je porte ces chaînes à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment. Si tu veux m'accorder une faveur, il faut qu'elle soit libre et volontaire et que tu n'aies pas l'impression d'avoir eu la main forcée. Tu dois pouvoir être généreux de plein gré et accomplir de bonnes actions spontanément. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime t'a-t-il été retiré pour un temps afin que tu le recouvres pour toujours et il le revient. Et il te revient. Non plus simplement comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave. Comme un vrai frère pour moi, en tout cas, il est devenu un frère très cher. Il le sera encore plus pour toi, à double titre, comme serviteur dans ta maison et comme chrétien, serviteur du même Seigneur. Si donc tu ne tiens toujours pour ton ami, accueille-le comme tu le recevrais moi-même. Si tu estimes avoir été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte-le sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main pour servir de reconnaissance de dette. Moi, Paul, je m'engage à rembourser cette dette. Je ne veux pas te rappeler ici que tu es toi-même mon débiteur et que tu me dois tout ce que tu es. Oui, frère, puisque nous sommes unis dans le Seigneur, j'aimerais bien en profiter pour te demander la faveur de l'accueillir. Fais-moi ce plaisir. Tranquillise mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre dans la ferme conviction que tu ne répondras à mes désirs. J'ai pleine confiance en toi. Je suis même persuadé que tu feras encore plus que je ne demande. J'ai encore une requête. Prépare-moi ta chambre d'amis. J'ai bon espoir de voir bientôt vos prières exaucées et de pouvoir revenir chez vous. Épaphras partage ma captivité à cause du Christ. Il te fait bien saluer. Tu as aussi les salutations de Marc, d'Aristarque, de Démas, de Luc, mes collaborateurs. Je prie Christ, le Seigneur, de vous accorder sa grâce pour votre esprit. La parole du Seigneur.
Merci, Darius. Une chenille ne pourra jamais manger de nectar de fleurs, à moins qu'elle ne devienne un papillon. Et je prie que l'Esprit Saint nous transforme de manière à pouvoir manger le nectar de la parole de Dieu ce matin, et que ce soit l'Esprit qui nous dirige, qui nous guide, qui touche nos cœurs. Avant de pouvoir transmettre un message, il faut de la préparation. Alors, ça dépend des époques, hein, c'est vrai. Il fut un temps où il fallait trouver du papier, de l'encre, une plume, un lieu sec pour écrire, un étui pour mettre le rouleau, trouver quelqu'un pour l'amener, etc. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne faut rien préparer. Il suffit de prendre son smartphone, et même bientôt qu'il suffit de penser et que l'autre reçoit notre message. Mais il faut un écran qui fonctionne, et donc chargé, fabriqué avec des milliers de composants, une application qui fonctionne, sur un système d'exploitation informatique qui fonctionne, des antennes de connexion qui ont dû être installées, une quantité de serveurs sont utilisés, des centrales électriques pour faire fonctionner tout cela. Et l'autre doit aussi avoir un écran qui fonctionne pour lire votre message avec même la bonne application. Bon, vous me direz, pour aujourd'hui, vous ne voyez plus rien de ce qu'il faut préparer pour envoyer un message. Tout est fait pour vous. Mais même si ce n'est pas visible, pour transmettre un message, il faut de la préparation et un certain nombre d'outils. Et Paul est conscient que pour vivre une réconciliation, il faut également de la préparation. Voilà pourquoi il prend du temps pour écrire à Philémon et il fait le cheminement pour arriver à sa demande. En fait, Paul aurait pu envoyer un SMS, enfin, c'était peut-être un autre mot à l'époque, hein, en disant « Onésime, chrétien, pardonne-lui, à plus, Paul ». Voilà. Il aurait dit, en fait, ce qu'il voulait dire pour tout ce qui est écrit dans Philémon. Paul, comme nous, préfère parler de vive voix quand c'est possible et que la personne est disponible et disposée. Quand il ne le peut pas, eh bien, il prend le temps d'écrire et il développe sa pensée. C'est ce que Paul fait dans sa petite lettre à Philémon, où il veut aider Philémon à recevoir favorablement Onésime, son esclave qui s'était enfui. Et Philémon, hein, le récepteur, doit donc s'asseoir, prendre le temps de lire et de recevoir ce qu'il est écrit et faire l'effort de comprendre. Le récepteur doit donc s'asseoir, prendre le temps de lire et recevoir ce qui est écrit et faire l'effort de comprendre. Nous avons déjà pris le temps de réfléchir aux trois premiers versets de Philémon où nous avons parlé d'ingrédients essentiels pour la réconciliation. On en avait vu cinq. Vous vous souvenez ? Oh, j'ai aussi besoin de mes notes, hein ? Donc on va s'aider pour simplement se souvenir. On avait parlé d'un médiateur, Paul est le médiateur. Deuxièmement, le besoin d'un changement du pécheur. Troisièmement, l'accueil de la personne concernée. On avait vu toutes les personnes à qui Paul écrit, à l'église, à Archippe, enfin, etc. Ensuite, l'encouragement des témoins du changement. Tous ceux qui donnent leur salutation sont témoins du changement d'Onésime. Et puis, cinquièmement, la source de la réconciliation, c'était la bénédiction que Paul dit à deux reprises, la grâce et la paix de Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait vu en prenant les trois premiers versets et les deux derniers, en fait. Et ensuite, les versets 4 à 7 nous ont parlé de quatre ingrédients supplémentaires qui nous aident dans la réconciliation, à vivre cette réconciliation. Et là, si vous avez Philémon ouvert sous vos yeux, ça c'est une très bonne idée, puisqu'on va s'y attacher aujourd'hui. Le verset 4 nous parlait de la puissance de la prière. Le verset 5, de la foi manifestée par l'amour. Le verset 6, de la communion agissante. C'est cette communion agissante qui va pousser à vivre la réconciliation. Et septièmement, le réconfort qui tranquillise. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et aujourd'hui, nous continuons avec les versets 8 à 12 que j'intitule « La transformation qui permet la réconciliation ». La transformation qui permet la réconciliation. Dans les versets 8 à 9, Paul réfléchit à la manière d'apporter sa demande et il l'explique à Philémon. J'intitule ce premier point « Prescrire ou plaider ». Prescrire ou plaider. Certains mettront un point d'exclamation, d'autres un point d'interrogation. Bon, ça c'est... vous pouvez choisir. Dans les versets 10 et 11, Paul plaide pour un homme qui a été transformé. La transformation d'Onésime rend la réconciliation possible avec Philémon. En deuxième point, nous parlerons donc de la transformation, les versets 10 et 11. Et nous terminerons au verset 12, qui indique l'action de Paul, qui veut la réconciliation des deux hommes qu'il aime énormément. L'envoi pour la réconciliation, c'est le verset 12. Donc penchons-nous pour commencer sur les versets 8 et 9 pour réfléchir avec Paul à la manière de faire sa demande. Comment est-ce qu'il va faire sa demande à Philémon ? Et là, relisons les versets 8 et 9 pour les avoir bien en tête. Où il dit, Donc il vient de faire le début où il a dit à qui il écrit, il vient de parler de Philémon lui-même, de qui il est, hein, qu'il est quelqu'un qui aime, pour qui il prie, etc. Et voilà ce qu'il dit au verset 8. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. » Paul est un apôtre de Jésus-Christ. Et il le sait. D'ailleurs, sur les 13 lettres qu'il a écrites, dans 9 lettres, il commence par se présenter en tant qu'apôtre. Donc ça, c'est quelque chose qui était connu pour lui. Dans la lettre à Philémon, il ne se présente pas comme un apôtre. Il va écrire comme un ami très cher à Philémon. Et nous voyons en fait que lorsque Paul s'adresse à des églises, qu'il pose des fondements théologiques, il prescrit, il donne des commandements, il donne l'ordre de faire. Quand il écrit à des églises, qu'il pose des fondements théologiques, il prescrit, il donne des commandements, il donne l'ordre de faire. Comme par exemple dans Colossiens 3, 13, où il est dit « Est-ce que vous voulez ?» Non, il est dit « Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Il aurait pu dire la même chose à Philémon. Mais généralement, quand Paul parle à l'Église et qu'il pose des fondements théologiques, on voit qu'il prescrit. C'est d'ailleurs ce que Philémon a entendu, hein, parce que la lettre aux Colossiens est apportée à l'Église où est les membres. Et c'est donc Tychique et Onésime qui ont apporté cette lettre à Colosse. Paul a posé des bases théologiques avec sa lettre aux Colossiens. C'est un peu comme à l'Église, souvent, ici aussi, nous posons des éléments théologiques par la prédication ou par l'enseignement dans les études bibliques. Et ensuite, généralement, dans les entretiens individuels qui sont vécus, dans la relation fraternelle basée sur l'amour, c'est plutôt un plaidoyer. Donc on voit cette différence qui est vécue aussi dans l'Église. Est-ce que ça aurait été une faute de Paul d'ordonner à Philémon d'accueillir Onésime, qui est maintenant dans la foi ? Est-ce que ça aurait été une faute que Paul dit à Philémon, tu dois maintenant accueillir Onésime ? Non. Parce que en Christ, Paul, d'ailleurs avec l'autorité que Dieu lui a confiée, a la liberté d'ordonner ce que Jésus veut à une autre personne qui est en Christ. Il a cette liberté. Par exemple, il le fera même quand il écrit à Timothée. Là, il ne plaide pas. Il lui ordonne avec la plus grande autorité possible, et là c'est très fort dans 2 Timothée 4, hein, « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. » Donc là, c'est une exhortation solennelle avec un impératif clair, même pour une personne. Avec Philémon, qui a entendu la lettre aux Colossiens, Paul choisit de ne pas ordonner, mais de plaider. Il y mettra en fait tous les arguments possibles pour aider Philémon à comprendre quel est le choix le meilleur. On voit, il essaie par tous les moyens pour dire « Mais Philémon, s'il te plaît, accueille Onésime. » Mais je te donne des raisons, évidemment. Et le Saint-Esprit, par Paul, fondera son appel sur un élément clé. C'est l'amour. C'est l'amour, exactement. C'est l'amour, sous toutes ses facettes et qui doit motiver Philémon. L'amour reçu de Dieu en Jésus-Christ. Il doit quelque part aller puiser dans cet amour. L'amour pour Jésus-Christ, parce qu'il aime Jésus-Christ, il va agir d'une certaine manière. L'amour pour Paul, parce que Paul lui parle, il lui demande. Et même l'amour pour Onésime. C'est vraiment l'amour qui doit être le moteur de son action. Et ce choix de Paul dans cette situation nous encourage à limiter lorsque nous désirons voir des réconciliations dont la base sera solide et durable. Si je vais me réconcilier parce que je dois, ça ne sera pas aussi solide et durable que si je vais me réconcilier parce que j'aime. Vous voyez, il y a une différence là. C'est l'amour qui doit être la motivation, tel que l'amour a été la motivation de Dieu pour nous sauver et pour nous réconcilier avec lui. C'est sa motivation. On connaît bien ce texte de Romains 5,8. Quelqu'un connaît ce texte de Romains 5,8 ? Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. C'est par amour qu'il est venu nous sauver. Et si Dieu pardonne aux pécheurs et que c'est premièrement par amour, alors pourquoi hésiter de s'approcher de Dieu et lui demander pardon pour nos péchés? Pourquoi hésiter? Sa motivation pour nous pardonner, c'est l'amour. Donc n'hésitons jamais à nous approcher de Dieu pour nous repentir de nos péchés. Le Saint-Esprit, par Paul, avait bien écrit à l'église de Colosse où était Philémon, dans Colossiens 3, 14, « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Donc ça, il l'a écrit clairement dans cette lettre aux Colossiens. Paul voulait que ce soit l'amour qui motive Philémon dans l'accueil d'Onésime. Et il va utiliser tous les moyens pour réveiller, renforcer l'amour que Philémon a pour lui, pour Christ, pour etc. C'est la raison pour laquelle il utilise son nom, par exemple. Moi, Paul. Pour Philémon, Paul, ça voulait dire quelque chose. Il avait une relation avec lui, une relation qui était forte. En plus, il lui parle de vieillard et de prisonnier pour Christ. En fait, ça sensibilise le cœur de Philémon. Il se dit, mais oui, c'est Paul qui est plus vieux, qui est maintenant dans une situation plus difficile. Et c'est son affection, ses sentiments de bienveillance sont réveillés, en fait, parce que Paul lui dit ici. Vous savez, lorsque je donne une formation aux moniteurs, je leur donne une clé importante pour leur rôle. Je dis souvent, quelle est la chose la plus importante pour un moniteur? Il y en a qui ont fait la formation ici, donc ils connaissent déjà la réponse. La chose la plus importante pour un moniteur, c'est d'aimer les enfants qui leur sont confiés. Aimer. C'est le plus important. C'est vraiment... Il est vrai qu'ils ont des obligations, les moniteurs, bien sûr. Ils ont besoin de veiller à la santé, à la sécurité des enfants, de les accompagner, de travailler en équipe avec les autres moniteurs, avec les chefs de camp. Mais savez-vous que ces obligations, en fait, ils les vivront s'ils aiment les enfants? Parce qu'ils comprennent que c'est le meilleur cadre pour les enfants. En les aimant, ils veulent leur bien. Si la motivation du moniteur, c'est suivre la règle mise en place, son attitude et sa persévérance ne seront pas les mêmes. Il fera peut-être juste. Mais ça ne sera pas la même attitude. Ça ne sera pas la même persévérance d'ailleurs. À un moment donné, j'ai fait ce que j'ai dû. Alors que l'amour va pousser à vivre d'une manière qui est authentique, qui permet d'avoir une relation qui va de l'avant. Et c'est ça que Paul désire ici. Ce n'est pas dire à Philémon, tu dois parce que c'est écrit et parce que c'est la loi. Non, je veux réveiller ton amour. C'est par amour que tu vas agir. Alors, comme application pour nos vies, nous pouvons mettre en pratique deux textes qu'on voit dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs qui parlent des uns et des autres, mais il y a deux textes que j'aimerais simplement vous donner maintenant. Le premier dans Hébreux 10, 24 qui dit « Veillons les uns sur les autres ». Donc, si vous ne savez pas qui c'est, ben regardez autour de vous, ceux qui sont autour de vous. C'est eux. Ça marche? Donc, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Ça, c'est Hébreux 10, 24. Et le deuxième, c'est Romains 12, 10 qui dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. » Voilà, donc ça, c'est un premier élément qu'on voit ici. Est-ce que Paul voulait... ordonner à Philémon de faire quelque chose ou bien plaider? Ben, on se rend compte assez clairement parce qu'on vient de voir maintenant que non, il voulait plaider. Il voulait que l'amour soit le moteur. Et si Paul peut plaider avec Philémon en l'invitant à agir au nom de l'amour, c'est qu'il sera en face d'une personne qui vient avec une bonne attitude. Onésime arrivera devant Philémon avec une bonne attitude. L'histoire biblique, qui me semble nous aide le mieux à comprendre le sentiment qui peut habiter Onésime, est celle du fils. Donc Onésime, c'est bon, vous voyez qui c'est? C'est le serviteur qui s'enfuit. Hein. C'est celle du fils qui a tout dépensé son héritage et qui rentre chez son père avec un profond regret de ce qu'il a fait, avec un respect mêlé de crainte de celui qui l'a si profondément blessé. Le fils prodigue, vous pouvez prendre cette image-là pour vous rendre compte, ça c'est l'état d'esprit d'Onésime en fait, quand il retourne chez Philémon. Et comme le fils prodigue, Onésime n'était pas parti avec ses dispositions et ses sentiments. Il y a eu une transformation. C'est notre deuxième point, justement, la transformation, les versets 10 et 11. Hein, et là, on voit Paul qui va assumer ce fait-là et dire « Je connais Onésime hein, ». Il dit « Je te prie, il dit à Philémon, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera utile comme à moi, à toi comme à moi. » Paul lui-même, pour agir comme il a dû d'ailleurs, pour dire ça ici, Paul, il a dû être transformé. Vous savez qu'il y a bien des années avant cette situation-là, Paul était à côté d'un homme qui se faisait lapider, qui s'appelle Étienne, et il approuvait ce meurtre injuste. Et ici, nous sommes devant un esclave fugitif dont la punition légale est juste, et Paul le défend. Paul a été transformé pour faire ça. Nous ne connaissons pas la vie de Philémon, c'est vrai, mais nous savons que par nature, nous ne pouvons pas vivre l'amour et la foi en Jésus, ainsi que l'amour pour les saints qui tranquillise. Philémon le vit, il a été transformé. Et pour qu'il puisse y avoir une réconciliation avec une personne rebelle, révoltée, indocile, têtue, indisciplinée, insoumise, réfractaire ou subversive, qu'était Onésime, il faut une transformation. Il faut une transformation. Pour qu'il puisse y avoir une réconciliation avec une personne telle qu'Onésime, avec tous les termes que j'ai donnés tout à l'heure, rebelle, révolté, indocile, etc., il faut une transformation. Onésime s'était enfui de chez Philémon et avait vraisemblablement volé son maître en partant. D'ailleurs, il le volait déjà en n'étant plus là lui-même. Le fait qu'il n'était plus là, Philémon a dû prendre un autre serviteur. Donc c'était déjà une perte. Et en plus, il a sûrement pris encore de l'argent ou ce qu'il pouvait pour partir le plus loin possible. Cette attitude d'Onésime n'est pas une attitude chrétienne ni légalement juste. Et Philémon a dû être fâché à juste titre. Peut-être aussi blessé, peiné. Vous voyez, pour Philémon, c'était quelque chose de difficile. Et ce sont des sentiments qui peuvent l'assaillir lorsqu'il pense à Onésime ou lorsqu'on lui parle d'Onésime. Voilà les sentiments qui peuvent arriver chez Philémon. Et Paul, guidé par le Saint-Esprit, prépare justement le moment où il parlera clairement d'Onésime. Si vous regardez le début de la lettre, dans les 9 premiers versets, Onésime ne fait pas partie du texte. Il n'existe pas pour l'instant. Paul est en train de préparer Philémon. Et avant même de le nommer, il parle d'abord de quelque chose que Philémon ne connaît pas encore. Paul va lui parler de son enfant. Il a dit, tu parles de mon enfant, une personne dont il est le père spirituel, à qui il est attaché, dont il prend soin. Rappelons-nous que Philémon aime profondément la parole de Dieu, il aime profondément Paul. Il va donc avoir des sentiments, une attitude positive et accueillante pour un enfant spirituel de Paul. Paul dit d'ailleurs qu'il a engendré cet enfant dans les chaînes. C'est donc arrivé tout dernièrement, puisque c'est maintenant que Paul est en prison. Et Philémon aime le Seigneur. Il se réjouit d'avance de connaître ce nouveau-né spirituel. Vous avez déjà vu les petits moutons, là, dès qu'ils naissent, vous les regardez un peu sur leurs pattes, un peu toutes tremblantes. Vous l'aimez déjà. Alors là, Philémon se réjouit d'apprendre à connaître ce nouveau-né. Et Paul dit que c'est Onésime. Waouh, le cataclysme de sentiments en Philémon. La réjouissance de l'enfant spirituel est encore là, et voilà que tout le cauchemar d'Onésime revient. Alors Paul comprend ce qui peut se passer, et tout de suite il dit « Autrefois, il t'était inutile ». Il reconnaît la vie terriblement mauvaise d'Onésime, il la reconnaît. Il ne justifie aucun de ses actes mauvais et il continue avec un de ses merveilleux mais divins. Hein, donc Paul, tout de suite, quand ses sentiments peuvent arriver vers Philémon, hein, il lui dit autrefois il a été inutile, il reconnaît la vie terrible et mauvaise d'Onésime. Il ne justifie aucun de ses actes mauvais. Mais il continue avec un de ces merveilleux mais divins. Mais maintenant, Onésime n'est plus comme cela. Mais maintenant, Onésime n'est plus comme cela. Il y a une transformation. Lui qui n'était qu'un révolté difficile à gérer et sûrement à aimer, est maintenant un enfant spirituel de Paul, donc un enfant de Dieu. Onésime est entré dans la famille de Dieu. On pourrait même dire, avec un langage actuel, dans certaines conditions, qu'il est entré dans la famille et Paul est son parrain, si vous voulez, son protecteur. Onésime entendra d'ailleurs, comme tous les Colossiens et Philémon aussi, ce que Paul dit aux esclaves. Et Paul d'ailleurs a dû prendre le temps d'enseigner à Onésime ce qu'il devait aspirer à vivre. On l'a lu dans Colossiens 3 tout à l'heure, je vais juste vous le relire pour que vous sachiez que c'est ce que Onésime devait et pouvait avoir en tête. Quand il a dit « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair ». Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y aura pas de considération de personne. Si Paul implore le pardon de Philémon envers Onésime, ce n'est pas pour un rebelle, mais un repenti. Paul implore le pardon de Philémon envers Onésime, pas pour un rebelle, mais pour un repenti, qu'il appelle enfant, engendré, utile, et on verra même plus tard frère. C'est vrai, et ça c'est un peu troublant, enfin moi ça m'a un peu troublé quand même, peut-être ça va vous troubler aussi maintenant, désolé, mais c'est vrai qu'il n'est rien dit de la repentance d'Onésime. Rien. Vous avez vu ? Il n'y a rien du tout dans ce texte. Il n'y a rien dit. Mais le fait qu'il retourne chez son maître, alors qu'à l'époque les esclaves fugitifs étaient souvent crucifiés, montre qu'il fait confiance à Dieu et prend ses responsabilités, quoi qu'il arrive. Donc là, on voit quand même déjà un élément qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et en retournant chez Philémon, Onésime indique également qu'il lui appartient. Pourquoi il retourne chez Philémon ? C'est parce qu'il appartient à Philémon. Est-ce que Paul a dit à Onésime tout ce qu'il a écrit dans la lettre qu'il donnait à Philémon ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. J'ai même l'impression que non. Parce qu'Onésime ne doit pas s'appuyer sur la lettre de Paul, mais s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est son appui. Onésime, en retournant chez Philémon, montre qu'il s'est repenti. Et je suis certain qu'il cherchera à réparer tout ce qu'il peut, car il a une des caractéristiques de la repentance qui libère. C'est aussi un encouragement au pardon que Philémon pourra lui accorder. Oui, Onésime devra encore progresser dans la foi. Il manque encore de maturité. On ne reçoit pas la maturité d'un coup. Poum ! Mais non, elle grandit petit à petit. Oui, il devra encore combattre contre certaines habitudes bien ancrées, par exemple peut-être l'envie de se rebeller lorsqu'on lui demande quelque chose, surtout s'il n'est pas d'accord ou ne comprend pas pourquoi on lui demande ça. Mais ça diminuera au fur et à mesure qu'il s'accroche et se place près de Christ. Onésime est transformé, il est engendré, né de nouveau, il est une nouvelle créature. On pourrait dire les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'aspire plus aux mêmes choses. Il aime ce que son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ aime. Les mondanités ne l'attirent plus. Alors Philémon ne doit pas attendre, par contre, qu'Onésime soit parfait pour lui pardonner et se réconcilier avec lui. Mais il voit clairement qu'il y a eu un changement. Et Paul l'a vu et il l'atteste. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Comme je l'ai dit, Paul n'appuie pas sa demande à Philémon sur la transformation d'Onésime, mais sur l'amour de Philémon pour Paul. Il ne dit à aucun moment qu'Onésime regrette, s'est repenti de façon pathétique, en larmes pendant des semaines. Non, ça c'est Onésime qui pourra le faire et le démontrer et le dire à Philémon. Paul écrit ce qui le concerne et qui va aider Philémon à la réconciliation. Paul a vu la transformation. Et il prie au nom de l'amour d'accepter Onésime. Pour que la réconciliation entre le fils prodigue et son père soit possible, il y a eu besoin d'une transformation. Le jeune fils qui a exigé son héritage et mené la grande vie a dû être transformé. Et il veut, après transformation, servir son père. C'est dit dans Luc 15, verset 18, il dit « Je me lèverai », c'est le fils prodigue qui a mené la grande vie, qui voulait partir, « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Voilà le retour. Voilà pourquoi Paul renvoie Onésime chez Philémon. Il faut retourner. J'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il n'a même pas pu dire tout ce qu'il avait prévu de dire. Si vous êtes une personne rebelle qui ne veut pas se soumettre à une autorité, que vous êtes capable de partir pour ne pas obéir, je vous invite à réfléchir à Onésime, qui était inutile avec cette attitude. Il avait besoin d'être transformé et habité par Jésus-Christ. C'est en demandant pardon à Dieu, l'autorité suprême, et aux autorités mises en place sous son regard, qui ont été désobéies, que la liberté et la paix sera trouvée. Si vous recevez une demande de pardon d'une personne qui a été transformée par l'Évangile, mais tenez compte de la transformation et de la présence de Christ en elle. Réjouissez-vous du changement de vie, encouragez-la et accueillez sa demande. Justement, Paul ne veut pas simplement écrire une lettre pour que Philémon soit touché dans son cœur et dans ses pensées sans aucun changement de relation. Il veut qu'il accueille physiquement Onésime pour une réconciliation effective. C'est pourquoi il l'envoie. C'est notre troisième point. L'envoie pour la réconciliation, verset 12. Il lui dit « Je te le renvoie ». Et c'est à dessein que Paul le fait. Hein. « Je te le renvoie ». Après, il ajoute « Lui qui est une partie de moi-même ». Paul est conscient que Onésime appartient à Philémon. C'est son esclave, voilà pourquoi il le renvoie. Ça, c'est légal. Paul est conscient qu'Onésime appartient à Philémon, c'est son esclave, voilà pourquoi il le renvoie. Et ce n'est qu'en remettant les choses à leur place que la réconciliation sera possible. Il faut rétablir ce qui est juste et possible. Là, selon la loi, Onésime appartient à Philémon et non à Paul. Paul ne prend pas de décision à la place de Philémon. Il lui laisse le choix. Il ne lui dit pas « je l'ai gardé parce que je pensais bien que tu allais lui pardonner et me le renvoyer ». Non, 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 il lui envoie. Par contre, et ça c'est très intéressant, Paul indique un changement depuis la dernière fois que Philémon a vu Onésime. Maintenant, Onésime est devenu une partie de Paul. Vous avez vu ? Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Maintenant, Onésime est devenu une partie de Paul et Paul n'appartient pas à Philémon. En disant qu'Onésime est une partie de lui-même, Paul utilise le terme « entraille ». Il est de mes entrailles, hein, qui pour, dans un contexte hébreu, nous parle du siège des plus tendres affections. Paul est tellement proche d'Onésime. Certains diraient « ce sont des frères de cœur, des amis intimes, c'est une âme sœur, si vous voulez ». Paul prépare ainsi ce qu'il demandera à Philémon un peu plus loin, au verset 17, quand il demandera de l'accueillir comme lui-même. Nous verrons la prochaine fois, d'ailleurs, comment Paul propose à Philémon de traiter son esclave. Pour ce verset 12, le renvoi d'Onésime vers Philémon signifie la réconciliation du maître avec son esclave qui a fui, mais qui a été transformé. Alors peut-être que vous avez déjà utilisé des rallonges avec des appareils électriques. J'ai utilisé des rallonges. Ok, donc vous arrivez à comprendre ce que je vais vous dire. Si les rallonges sont déconnectées, il ne sera pas possible d'utiliser l'appareil électrique ou la lampe, même si vous faites toutes les théories possibles pour expliquer l'importance de connecter les prises. Il faut que les prises se rencontrent à nouveau et soient reconnectées. Il en est de même pour Philémon et Onésime. Ils ont besoin de se rencontrer pour se reconnecter. Il en est de même entre les chrétiens qui ont besoin de réconciliation. Lorsque nous nous repentons du mal fait à un frère ou une sœur dans la foi, particulièrement si cela arrive lors de notre conversion, allons vers lui ou vers elle chercher la réconciliation. Prêts à réparer ce qui est possible et en ayant en nous le pardon de Dieu, le prix payé par Christ pour nous libérer de notre péché. Étant dans la foi, cherchons donc à le vivre ensuite comme habitude. Ce n'est pas juste quand on se convertit. À moins que vous ne péchiez plus. Lorsqu'une personne qui est maintenant notre frère et notre sœur dans la foi vient vers nous pour une réconciliation, je vous encourage à voir en elle la présence de Christ. Voir en elle la présence de Christ, celui qui nous aime et qui a payé pour son péché. Lorsqu'une personne, qui est maintenant notre frère et notre sœur dans la foi, vient vers nous pour une réconciliation, voyons en elle la présence de Christ, celui que nous aimons et qui a payé pour son péché. C'est exactement ce que Paul voulait que Philémon fasse quand Onésime est venu vers lui. Et lorsque nous voyons deux croyants qui aiment le Seigneur, qui œuvrent pour lui, en l'aimant de tout leur cœur et qui ont besoin de réconciliation, encourageons-les à se retrouver, à se réconcilier et à voir Christ dans l'un et dans l'autre. Ce matin, nous avons vu trois choses importantes, une dans chaque point, enfin peut-être d'autres encore que le Seigneur vous a mis à cœur, parce que le Seigneur, des fois, il nous parle autre chose que ce que moi, je désire vous transmettre. Et c'est très bien, c'est l'Esprit qui agit. Alors, qu'avons-nous vu dans les versets 8 et 9 ? Dans les versets 8 et 9, est-ce que vous vous souvenez d'un élément important dans les versets 8 et 9 ? Vous pouvez même répondre si vous voulez. L'amour, ouais, t'as pris un seul mot pour résumer, c'est très bien. Hein. Paul ne prescrit pas, il plaide au nom de l'amour. C'est ça qu'on voit dans ces premiers versets. Un exemple pour nous dans nos relations. L'enseignement de la parole permet de poser des bases, de connaître ce qui est prescrit. D'ailleurs, c'est une bonne idée de le faire aussi dans le cadre du culte familial, du culte de famille, où là, on pose les bases, on dit, voilà ce qu'il faut vivre. Et puis ensuite, dans les situations, il y a besoin de réconciliation, plaider au nom de l'amour, en ayant cette base de ce qui est juste et bon à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans les versets 10 et 11 ? De nouveau un mot pour résumer, très bien, la transformation, hein, amour, transformation, excellent. Donc la demande de réconciliation est faite pour une personne transformée. Il y a un besoin de transformation, un changement de vie pour vivre la réconciliation. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous pardonner si nous ne changeons pas. Alors, même si le changement est graduel et prend du temps, ce changement doit être effectif et réel. La profonde transformation du cœur, c'est Dieu qui l'opère. En devenant son enfant, il nous donne un nouveau cœur, de nouvelles aspirations, une nouvelle direction. Celui qui est en Christ n'a pas les mêmes aspirations que quand il n'était pas en Christ. Ce n'est pas possible. Alors, il y a parfois la difficulté pour les enfants dans les familles chrétiennes d'avoir tellement reçu toujours les bonnes directions qu'ils ont de la peine à voir s'ils étaient ou sont, etc. Ça, je comprends. Mais pour quelqu'un qui a vécu sa vie sans Christ et ensuite avec Christ, c'est très clair, il n'a plus du tout les mêmes aspirations. Si vous n'avez encore jamais expérimenté cette transformation, n'hésitez pas à prier Dieu de vous transformer, regrettant vos péchés et croyant au prix payé par Christ à la croix pour les effacer. Et si vous êtes déjà enfant de Dieu, bien continuez à prier Dieu de nous transformer. Chaque partie de nos vies qui sont encore empêtrées dans des habitudes pécheresses, en regrettant notre péché et regardant le prix payé par Christ à la croix pour les effacer. Qu'avons-nous vu dans le verset 12 ? Maintenant, vous avez le défi de trouver un mot. Non, il n'y a pas besoin. Donc, identification. Oh ouais, ça c'est intéressant. Très bien, j'aime bien ce mot aussi. Donc, amour, transformation, identification. Cette notion, donc l'identification, il faut la comprendre dans cette notion de se retrouver. Hein, cette notion. Donc, il faut aller vers le frère et sœur en Christ à qui l'on a fait du tort pour vivre la réconciliation, étant chacun habité par le Christ. Donc on a l'identification en Christ qui nous permet de nous retrouver ensemble. Et je n'arrive pas à croire, je suis désolé, mais je n'arrive pas à croire, enfin non, je ne suis pas désolé, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, qu'il est impossible de vivre une réconciliation entre deux personnes habitées par Christ. Ce n'est pas possible de ne pas vivre cette réconciliation. Si deux personnes sont habitées par Christ, il y aura réconciliation. Je suis convaincu, même si parfois, c'est vrai, il faut du temps pour que certaines blessures soient guéries. Ça, c'est vrai. Paul désire de tout son cœur la réconciliation d'Onésime avec Philémon. Et nous verrons la prochaine fois ce que cela signifie dans cette situation de maître et d'esclave. Et je parlerai d'ailleurs aussi de un petit peu de l'esclavage, parce que comme on parle de ça ici, on dit qu'est-ce que ça fait dans la Bible ? Qu'est-ce qu'on peut en faire si quelqu'un vient nous dire « Regarde, la Bible, elle parle d'esclavage. » Bon, il faudra venir à la prochaine prédication. Là, nous allons prier pour terminer. Éternel, notre Dieu, nous sommes reconnaissants de voir ta parole que tu nous as laissée. Tu as même permis que cette petite lettre que Paul a écrite à Philémon, où l'on voit tout son cœur, où l'on voit tout son désir aussi d'accompagner son cher frère dans la foi à entrer dans une vraie réconciliation avec Onésime qui lui avait fait tant de tort. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que Paul a aussi de pouvoir lui dire qu'il est témoin de cette vraie transformation de la vie d'Onésime. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir de tous ceux qui sont transformés par toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de nous en réjouir et d'encourager, Seigneur, ceux qui vivent d'une manière qui manifeste ce changement. Oh Seigneur, donne-nous la grâce d'encourager à vivre l'amour. Donne-nous la grâce de reconnaître les transformations, de les rechercher auprès de toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette identification en Christ pour que nous puissions être réunis par ta grâce, par une réconciliation remplie de ton amour. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que nos cœurs souvent sont rebelles, indociles, orgueilleux, égoïstes, empêchant ces réconciliations si bonnes. Aide-nous, Seigneur, à les vivre pour ta gloire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.